Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Le nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 est en progression constante et on attribue cette tendance au mode de vie occidental qui est associé à la sédentarité et à l'obésité ainsi qu'au vieillissement de la population. Sur le plan mondial, la Fédération internationale du diabète prévoit que le nombre de diabétiques pourrait passer de 285 millions en 2010 à 438 millions en 2030. Un diabète de type 2 mal soigné peut avoir de graves conséquences sur la santé. C'est le sujet de notre rendez-vous santé du jour avec nos invités sur le plateau d'Africa Radio. A fait le déplacement Louis Potier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes diabétologue à l'hôpital Bichat à Paris. Merci d'être avec nous. Et au téléphone de la radio africaine, c'est Stéphane Besançon qui nous rejoint, directeur de l'ONG Santé Diabète. On parlera avec lui notamment du cas en Afrique. Alors tout d'abord, vous d'abord Louis Potier, est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre un diabète de type 1 et un diabète de type 2? Bonjour.
Bonjour. Effectivement, le diabète de type 1 et type 2 sont deux diabètes qui sont différents. Tous les deux se caractérisent par le fait d'avoir une glycémie, donc un taux de sucre dans le sang trop élevé. Mais le diabète de type 1 est un peu particulier parce qu'il est lié à une destruction totale des cellules qui sécrètent l'insuline dans le pancréas et commence souvent chez des enfants. C'est le pic d'incidence a lieu chez les enfants, donc c'est une maladie pédiatrique au début.
Oui.
Donc une maladie qui commence chez l'enfant en bonne santé et puis qui d'un coup devient diabétique et qui nécessite un traitement par insuline durant toute sa vie pour l'instant parce qu'il n'y a pas de possibilité de guérir du diabète. Le diabète de type 2, c'est, les mécanismes sont plus compliqués parce qu'ils sont plus... Il y a plusieurs mécanismes qui concourent à devenir diabétique. Il y a d'abord l'hérédité, puis l'obésité, puis le mode de vie, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc c'est une maladie qui survient plutôt dans la deuxième partie de vie, après 40, 50 ans, et qui est liée à un mode de vie qui n'est pas forcément bon pour la santé et qui provoque à force une montée progressive de la glycémie et qui s'installe souvent insidieusement. Donc on est sur deux formes de diabète très différentes.
Alors Stéphane Besançon, est-ce qu'il existe des symptômes visibles du diabète de type 2?
Les symptômes sont assez... Alors ça va dépendre, ça va dépendre de la, j'allais dire, de l'hyperglycémie et du taux de sucre dans le sang, mais après les symptômes un peu classiques, ça va être d'uriner beaucoup, de boire beaucoup. Sur certaines formes de diabète, il peut y avoir aussi une perte de poids qui s'accompagne de ça, et puis une fatigue assez excessive.
Oui.
Après, ça va vraiment dépendre du taux de sucre dans le sang. C'est pour ça qu'on dit que la maladie est pendant longtemps asymptomatique très souvent. Alors là, dans le diabète de type 2, pas dans le diabète de type 1, et que les symptômes arrivent justement quand la glycémie monte au-dessus d'un certain seuil, et on commence à avoir tous ces symptômes qui apparaissent progressivement.
Alors, c'est une maladie à surveiller au quotidien, Louis Potier. Quelles sont les complications du diabète de type 2?
Alors, les complications, elles sont nombreuses. C'est une maladie qui touche l'hyperglycémie, donc le taux de sucre dans le sang circule partout et touche beaucoup d'organes. Alors, c'est des complications, là, du coup, je vais les balayer, ça va faire un peu peur, mais elles ne sont pas inéluctables. Ce n'est pas parce que vous êtes diabétique que vous allez forcément les avoir. Mais,
ouais.
C'est le risque du diabète, ça peut abîmer les yeux et parfois conduire à la cécité, ça abîme les reins, ça conduit parfois à la dialyse, ça abîme la sensation de la sensibilité au niveau du pied, peut conduire à des plaies, parfois des amputations, et ça abîme enfin les vaisseaux, comme le tabac, la tension artérielle, donc ça peut boucher les vaisseaux et conduire à des problèmes cardiaques, infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux ou artériopathie des membres inférieurs, c'est-à-dire un problème d'ischémie, des pieds ou des jambes, et donc voilà, tous ces problèmes sont tous là, mais tous ne sont pas loin d'être inéluctables et tous peuvent être prévenus, et ça c'est important dans le diabète, c'est prévenir les complications.
Alors comment on soigne, Stéphane Besançon, un diabète de type 2?
Ça dépend, c'est une question un peu compliquée, ça va vraiment dépendre du type, dans le type 2, mais j'allais dire du type de patient. Ça peut aller du simple mesure hygiéno-diététique, nutrition, une alimentation équilibrée, de l'activité physique, jusqu'à des antidiabétiques oraux, et puis on peut monter sur certains patients à de l'insuline, et des patients peuvent être aussi en bitrithérapie, en différentes thérapies suivant le profil et l'évolution.
Oui.
Donc ça va vraiment dépendre, on ne peut pas dire qu'il y a un traitement standard du diabète de type 2, le diabète de type 2 c'est ça et pas ça. Alors notamment c'est important ce que je dis là pour l'Afrique, parce que pendant très longtemps en Afrique, maintenant ça va un peu mieux, on a eu cette problématique diabète de type 1, insuline, diabète de type 2, pas d'insuline, alors que c'est un petit peu plus compliqué que ça.
Ouais.
Dans la pratique, ça dépend vraiment de la typologie du patient et de l'évolution aussi du diabète.
Alors justement, quelle est l'ampleur au Mali, peut-être un petit focus également sur le cas du continent africain, je pense que vous devez pouvoir nous répondre. Quelle est l'ampleur de la maladie en Afrique, puisque on parlait tout à l'heure du mode de vie occidental qui est souvent pointé du doigt dans le cas du diabète de type 2. Est-ce le cas en Afrique? Comment ça se passe au Mali et dans le reste du continent?
Oui, alors en Afrique, on est vraiment totalement sur une explosion de la problématique et de la pathologie. On a publié il y a 2 semaines au Congrès mondial du diabète, le dernier Diabète Atlas de la Fédération internationale du diabète. Il montre qu'il y a déjà 19 millions de patients atteints de diabète. Ils seront quasiment 45 millions sur le continent d'ici 20 ans. C'est le continent qui va connaître l'accroissement de la prévalence la plus importante.
Oui.
Il y a plus 143% de cas de diabète, donc c'est colossal. Et les causes sont vraiment liées à ce que vous avez décrit, c'est-à-dire une augmentation de l'espérance de vie, déjà, tout simplement, aussi une transition nutritionnelle, une urbanisation qui est galopante. Hein, on aura d'ici 10-15 ans quasiment 60% de la population du continent qui sera urbaine, donc c'est un changement total de mode de vie.
Oui.
Et là-dessus, tout ça crée aussi une augmentation très forte du surpoids et de l'obésité. Et quand on met tout ça réuni, ça fait un cocktail pour une augmentation très forte de la prévalence de diabète. Alors, savoir aussi que ces chiffres reflètent aussi une absence de politique de prévention très forte.
Oui.
Hein, qui, pour bloquer cette augmentation d'incidence et de prévalence. Donc, quand on cumule tout ça, effectivement, c'est très, très inquiétant pour le continent, avec des patients qui ont beaucoup de complications et du coup, des coûts aussi à la fois pour les États et pour les familles qui sont très élevés.
Alors, est-ce que ce sont les mêmes prises en charge en Afrique et quels sont les traitements? Est-ce que ce sont les mêmes qu'en France, par exemple?
Alors, oui et non. Ça va dépendre aussi des moyens économiques des patients.
Oui.
Quelqu'un qui a des très gros moyens financiers, qui peut aller dans des pharmacies privées, qui peut faire de l'import de médicaments, il va trouver tout ce qu'il peut trouver en Europe et en France. Maintenant, dans la réalité du quotidien des structures et pour la majorité des patients, on n'a pas tout à fait les mêmes molécules dernière génération, notamment dans le diabète de type 2 et surtout dans le diabète de type 1 avec les types d'insuline où on est encore une majorité de patients sous des schémas avec des insulines humaines. Il y a très peu d'insulines analogues qui sont des dernières générations, même si en France, elles sont utilisées depuis très longtemps.
Mm-hmm.
Donc on a quand même... Et alors, la fracture se fait de plus en plus forte si on parle du diabète de type 1,
oui.
Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de patients sous pompe à insuline, etc., etc., qui, sur l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire sans l'Afrique du Sud et le Maghreb,
oui.
Les pompes sont quasi inexistantes, à la fois pour l'utilisation de la technologie, l'entretien que ça et la technicité que ça nécessite. Donc on a une fracture, sur certains types de diabète, on a une fracture nord-sud de plus en plus forte sur les technologies et sur la qualité des soins des patients.
Et concernant les zones rurales, quelles sont les actions de prévention qui sont mises en place? Y en a-t-il? Et est-ce qu'il y a également des actions de dépistage?
Oui, il y a énormément. Alors, le problème du dépistage, nous, par exemple, pour notre structure santé diabète, on a beaucoup de mal à faire du dépistage là où on ne peut pas proposer d'offres de soins.
Ouais.
Donc, il faut vraiment, l'enjeu, c'est de structurer l'offre de soins pour nous et après de pouvoir proposer du dépistage pour pouvoir dire aux patients, si vous êtes diabétique, on a quelque chose à vous proposer parce qu'il y a toujours un côté un peu éthique, difficile de dire aux patients, voilà, on vous a maintenant dépisté, maintenant débrouillez-vous, il n'y a pas d'offre de soins. Et il y a peu de médecins formés, donc vraiment l'enjeu sur l'Afrique aujourd'hui, c'est cette décentralisation des soins,
ouais.
Former le maximum de professionnels de santé le plus loin possible de la capitale, parce qu'en général, les spécialistes sont en capital, et pouvoir proposer cette offre de soins.
Alors, la partie prévention à présent, quels sont les moyens simples pour éviter le diabète? Alors, faut-il avoir une activité physique régulière, Louis Potier?
Oui, il faut avoir une activité physique régulière. La prévention du diabète de type 2, c'est effectivement des moyens simples qui
ouais.
doivent être mis en œuvre au quotidien. C'est évidemment pas toujours facile, mais... Ça repose sur des mesures simples, d'avoir un régime alimentaire qui n'est pas contraignant, mais qui est équilibré, hein, comme on entend souvent dans les médias grand public. Donc il faut manger sainement, de tout, mais en quantité limitée, 3 repas par jour, pas de grignotage. Voilà, avoir une alimentation saine, sans excès, notamment sur le gras. Et puis l'activité physique, c'est un levier majeur de la prévention et même du traitement du diabète de type 2. C'est vraiment très très important de bouger. Alors c'est pas forcément faire du sport, hein, c'est bouger tous les jours. On le voit à Paris avec les grèves, là les gens se mettent à faire du vélo et marcher beaucoup. C'est voilà, un moyen typiquement très simple d'améliorer sa santé et de prévenir les complications, c'est de bouger tous les jours. Donc on recommande en général 30 minutes d'activité physique un peu intense, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez un peu en sueur tous les jours, ce qui correspond à environ 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures par semaine. Et l'important, c'est d'y aller progressivement, hein. C'est pas de se mettre, alors que vous faites rien, à vouloir courir le marathon de Paris demain, ça n'a pas d'intérêt. Il faut y aller progressivement, à son rythme, doucement, et les efforts seront payants sur le long terme, vous le verrez.
Alors, sur le continent africain et au Mali, est-ce que les recommandations d'activité physique, est-ce que le message passe? Est-ce qu'il est compris par les personnes malades, Stéphane Besançon?
Alors, il passe difficilement parce que c'est pas quelque chose qui est très, très pratiqué de manière, par le sport chez les jeunes. Autrement, c'est pas quelque chose qui est pratiqué de manière quotidienne, même si les choses sont en train de bouger progressivement.
Oui.
Donc, c'est pas quelque chose qui est très, très facile à mettre en place, déjà au niveau juste des habitudes de vie. Après, l'autre problématique, c'est, alors, pas dans le milieu rural, mais dans le milieu urbain, on a des villes qui sont devenues colossales, qui sont pas du tout urbanisées, dont la capacité, enfin, la possibilité aussi de faire de l'activité physique est pas toujours très facile.
Ouais, au niveau des infrastructures.
Au niveau des infrastructures, il y a peu de salles de sport qui sont très, très chères.
Ouais.
Les villes elles-mêmes sont quasiment aucune, sont faites pour marcher, très peu. Etc. Donc il y a un vrai enjeu aussi pour l'Afrique qui est beaucoup de pays en développement.
Oui.
Ces maladies-là sont aussi étroitement liées à comment les sociétés vont s'organiser, sont en train de s'organiser, l'urbanisation, etc. Parce que pour beaucoup de villes, si aujourd'hui vous dites à des gens d'aller marcher, ils vont vous dire où, quoi, parce que c'est vraiment pas facile. Donc il y a à la fois le côté recommandation, mais quelle est la mise en pratique possible de ces recommandations? Et ça, c'est pas évident. Il y a des vrais choix politiques à faire pour les dirigeants pour arriver à créer des environnements qui soient plus sains que ce qu'ils sont aujourd'hui.
Lamine Camara est conseiller médico-sportif. Il travaille en Seine-Saint-Denis, dans ce département. Il rencontre beaucoup de personnes qui souffrent de diabète, des personnes en surpoids notamment. Il les conseille de reprendre une activité physique régulière. Il est interrogé par Nadir Diana dans l'écoute.
Je conseille de l'activité physique régulière plutôt que sportive, dans un premier temps. Et vraiment, il faut que ce soit régulier et que ce soit adapté à leur niveau de pratique, en fait. Donc oui, bien sûr, c'est inciter à la pratique régulière, c'est ce que je fais, ouais, pour les diabétiques. Le plus simple, c'est la marche. Pour ceux qui peuvent marcher, qui n'ont pas de problème articulaire, c'est la marche régulière, c'est des activités, on va dire... souvent, c'est des personnes qui sont en surpoids, donc faites des activités en décharge, comme l'aquagym, par exemple. Voilà, donc après, l'idée, c'est la fréquence, en fait. Il faut que ce soit fréquent, c'est-à-dire 3-4 fois par semaine. Pas forcément longtemps, mais au moins un temps dédié. Et après, faudra faire un petit peu la synthèse de quelle est leur activité hebdomadaire. Est-ce qu'ils sont beaucoup assis dans la journée? Est-ce qu'ils se déplacent pas mal? Et c'est ça qui va déterminer le planning individuel qu'on va pouvoir mettre en place.
Pour vous, c'est vraiment essentiel d'avoir une activité sportive pour ceux qui souffrent de diabète?
Ça a un effet sur la glycémie. Et forcément, ça a le même effet que le traitement, en gros. Donc si on peut limiter les traitements, limiter les doses de traitement, voir les piqûres d'insuline en faisant de l'activité physique et en s'alimentant correctement. Donc oui, il faut encourager ça. Donc nous, les résultats qu'on a pu avoir avec l'activité physique régulière, c'est des personnes qui ont arrêté progressivement les traitements en quantité. Et du coup, pour arriver à un moment où voilà, ils s'alimentent correctement, ils ont une activité qui va avec l'alimentation qu'ils mettent en place et un traitement... qui va avec l'activité qu'ils ont aussi.
Alors en fait, c'est un équilibre qu'il faut trouver avec le médecin ou le diabétologue entre alimentation, traitement et activité physique. Alors justement, on va réentendre rapidement Lamine Camara qui conseille de reprendre une activité régulière sans abandonner le traitement du médecin. Ce dernier pourra dire s'il faut baisser ou non la prise de médicaments et augmenter la pratique d'une activité physique. On l'écoute.
Il faut avoir une activité physique régulière et par cette activité physique régulière, il faut travailler avec le médecin pour pouvoir limiter les traitements. C'est pas une réponse de normand, c'est juste de dire aux personnes, faut pas arrêter leur traitement parce que voilà, c'est des vies, hein, qui sont en jeu. Donc on va pas arrêter les traitements en se disant voilà, on va faire de la marche, mon coach m'a dit ça. Si on va faire de l'activité physique, on va parler avec le médecin et du coup au bout de 3 mois très rapidement, il va diminuer les doses et voir comment on réagit, comment on s'adapte si on continue l'activité parce que c'est ça la condition. Et si on la continue, forcément, on l'apprécie de plus en plus, on peut aller dans des intensités plus hautes. Et là, du coup, ben, on va pouvoir baisser les traitements. Voilà. Et on rajoute aussi l'alimentation qui va bien avec. Donc, du coup, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, il faut pas dire d'un côté c'est mieux ou pas mieux. C'est complémentaire. Et je pense franchement que ça peut vraiment limiter les traitements, oui, bien sûr. Voilà, donc mais c'est pas il faut pas se dire je commence l'activité, j'arrête mes traitements. C'est je commence tranquillement, déjà j'apprécie l'activité et après mon médecin va décider je vais travailler avec mon médecin pour limiter mes traitements. Et au fur et à mesure que j'apprécie l'activité, bien sûr, je vais complètement pouvoir arrêter même les traitements, hein, c'est possible.
D'où l'importance du suivi de la maladie par des spécialistes, Louis Potier. Quelles sont vos réactions, hein?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Camara. C'est vraiment, ça rejoint ce que j'ai dit avant, c'est vraiment très important. Le suivi est majeur dans le diabète, c'est une maladie chronique. Donc quand vous êtes diabétique, c'est très rare que vous puissiez arrêter les traitements ou ne plus être diabétique, donc ça nécessite un suivi. Alors par un spécialiste, pas forcément, parce que malheureusement, en tout cas en France, le nombre de diabétiques est à plus de 4 millions et le nombre de diabétologues n'est pas du tout adapté à ça. Et donc chaque diabétique n'a pas besoin ou ne peut pas, enfin n'a surtout pas besoin d'être suivi par un diabétique. Donc Le rôle du médecin traitant, le médecin de première intention, est vraiment majeur. Il est là pour dépister, accompagner le patient au début de la maladie et lorsque les traitements, comme l'a rappelé M. Besançon tout à l'heure, sont individualisés, ne sont pas toujours pareils et que voilà, il y a des traitements simples qui peuvent être pris en charge par le médecin traitant, mais que effectivement, quand le traitement se complexifie ou quand les complications apparaissent, le spécialiste est là pour suivre le patient et le suivi, que ce soit par le médecin traitant ou le spécialiste, est vraiment important, au moins 2 à 3 fois par an, voire plus si besoin.
Alors, téléphone de la radio africaine, nous allons prendre un auditeur ou une auditrice. Bonjour.
Oui, bonjour.
Cissé, vous allez bien?
Oui, ça va. Et
vous? Allez-y. Oui, ça va bien, Cissé. Allez-y, on vous écoute.
Je voulais savoir comment on fait pour savoir qu'on est diabétique.
Pour savoir...
Si on est diabétique.
Ah, pour savoir si on est diabétique?
Oui.
Allez-y, Louis Potier.
Alors, pour savoir... Alors les symptômes, il y en a pas beaucoup. L'a rappelé Monsieur Besançon, il en a rappelé. C'est quand la glycémie, le taux de sucre dans le sang commence à être vraiment haut, on se met à uriner beaucoup. Donc vous faites beaucoup pipi et puis vous avez très soif. Donc vous buvez beaucoup, vous urinez beaucoup, vous commencez à perdre du poids. Mais malheureusement, il y a souvent peu de symptômes. Et donc pour savoir si on est diabétique, le moyen de savoir, c'est de faire une prise de sang à jeun, avec le mesure du taux de sucre dans le sang que vous prescrit votre médecin, et savoir s'il est supérieur à un seuil qui définit le diabète, qui est 1,26 g de glycémie, de taux de sucre dans le sang. 1,26 g par litre. Il faut que ce soit confirmé 2 fois, il faut que ce soit bien à jeun.
Ouais.
Et si vous avez 2 prises de sang qui confirment que les deux taux sont supérieurs à ce seuil, vous êtes défini comme diabétique.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est...
Merci beaucoup.
Merci pour votre appel. On va prendre rapidement Jomo. Jomo de Beng, bonjour. On va être rapide ce matin. Allez-y, Jomo, nous vous écoutons.
C'est toujours rapide.
Oui. Allez-y, vite, Jomo.
Je comprends. Bon, je vais pas donner mon expérience ou mon vécu. Donc, je vais simplement dire que j'encourage tous les diabétiques à ne pas arrêter du tout le traitement. Parce que le diabète, comme l'a dit tout à l'heure.
Vous l'êtes, vous? Vous êtes diabétique, Jomo?
Ah non, pas du tout, ne me souhaitez pas ça.
D'accord, ok, non, mais parce que vous parlez de votre expérience, donc j'ai supposé...
Non, je ne peux pas, parce que le temps est court. J'allais vous donner au moins une expérience, enfin, un vécu de quelqu'un que je côtoie et tout.
Mais d'accord.
Je ne peux pas, le temps est court. Donc, je disais que, voilà, j'encourage toutes ces personnes-là à se faire dépister, à aller faire le taux de glycémie. Ce n'est pas trop difficile. Vous donnez le bout du doigt, on prend et on regarde. Mais moi aussi, ce que je voudrais dire, c'est que ici, nous avons encore des moyens colossaux pour lutter contre ça, ou du moins à vie. Mais dans nos pays, comme chez moi personnellement, à Séguéla, Séana, Kama et Kwama, il faudrait que l'accessibilité aux soins, et Dieu merci aujourd'hui, grâce à la politique mise en place par le président Alassane Ouattara, je pense qu'il y a des trucs qui sont faits régulièrement dans ce sens-là. Et moi, je voudrais que les ONG, l'OMS et tout ça fasse des plans vers nos pays surtout qui n'ont pas encore pris conscience, ou du moins qui n'ont pas encore pris conscience du dépistage,
ouais.
De faire plus aider nos différents gouvernements à porter le message. Nous aussi qui avons eu la chance bien sûr de vivre dans des pays développés comme la France, les États-Unis, à appeler, à sensibiliser nos gens de Kama, Kwama, Seanan, Séguéla, sous-préfecture du Ouro-Dougou, département du Ouro-Dougou, à parler de ça. Et je pense que ensemble nous irons loin. Et je vais emprunter un propos de Bédier qui disait à son époque, même s'il n'a pas mis en œuvre, que le bonheur pour chacun et le progrès pour chacun et le bonheur pour tous.
Merci Jomo pour cette intervention, merci pour votre appel. Alors on va parler peut-être à l'approche des fêtes également, des conseils que vous avez envie de donner aux personnes qui nous écoutent et qui souffrent de diabète. Stéphane Besançon, quels seraient les conseils que vous avez envie de donner aux auditeurs à l'approche des fêtes?
Je pense qu'il faut être assez, modéré. C'est-à-dire qu'on peut pas dire aux gens, parce qu'ils ont un diabète, ils peuvent plus faire les fêtes, plus rien manger et tout ça, de pas être trop restrictif. Mais de l'autre côté, non plus de pas être dans l'excès. Donc d'être, je pense que la plupart des patients ont déjà à peu près leur schéma et ils savent peuvent manger ou pas, donc se faire un peu plaisir pendant les fêtes, mais en étant modéré, raisonné, et pas justement en tombant dans l'excès et pour se retrouver après les fêtes avec des glycémies très très compliquées à contrôler. Donc je pense que le message, il est un peu là, il est d'essayer d'être modéré, mais quand même d'arriver à se faire un peu plaisir, parce que la maladie, elle est là, présente au quotidien, tout le temps.
Oui.
Donc on peut pas non plus demander aux gens de passer à travers les fêtes comme ça, dans leur coin, avec juste avec beaucoup de privation. Psychologiquement, c'est jamais très facile. C'est aussi en Afrique, au moment des fêtes, ce qu'on conseille. Hein, comme en plus, en Afrique, il y a énormément d'excès souvent pendant les fêtes.
Oui.
D'excès, je veux dire, en termes de quantité, c'est vraiment ça. C'est de se dire, allez-y avec la famille, dans le cadre social, faites-vous plaisir, mais vous, en raisonnant et en modérant et en évitant justement ces excès pour éviter que les glycémies s'envolent.
Je suppose que ce sont les mêmes recommandations que vous avez envie de faire aux auditeurs pour les fêtes, ceux qui sont atteints de diabète, Louis Vautier.
Oui, c'est tout à fait ça, je suis tout à fait d'accord avec M. Besançon. C'est vraiment la diététique, il faut trouver un bon équilibre dans la vie entre vivre, se faire plaisir, parce que la vie n'est pas faite de contraintes, que de contraintes, pardon. Et donc, faut arriver à trouver un bon équilibre entre son traitement qui permet de vivre en bonne santé et aussi de vivre psychologiquement bien. C'est très, très important, ça, parce que c'est une maladie chronique qui doit être tenue sur le long terme. Donc, dire aux gens, voilà, faut arrêter de manger, faut faire du sport tout le temps. Ça va marcher un mois, puis les gens vont lâcher derrière. Donc,
ouais.
Il faut accompagner les gens, les mettre progressivement et leur dire, voilà, il y a des fois, c'est l'anniversaire, c'est les fêtes. Il faut savoir garder des moments de plaisir dans la vie. C'est quand même important.
Un dernier mot, Stéphane Besançon, que vous avez envie de dire pour conclure l'émission?
Je dirais que ce point-là est central, notamment pour les auditeurs qui vivent en Afrique, parce qu'on a beaucoup de gens maintenant, on a souvent des conseils, notamment en Afrique, de nutritionnistes qui sont très très restrictifs, avec énormément d'interdits encore,
ouais.
Des choses qu'on a fait un peu disparaître en France en allant sur la modération. Et du coup, on se retrouve avec des patients très très frustrés qui disent qu'en gros, je caricature, mais ils préfèrent que leur diabète se dégénère progressivement plutôt qu'être privés comme ils sont privés, parce qu'on n'est plus sur un côté psychologique. Donc c'est ça qui est important, de lever cette notion de privation, de dire qu'il faut modérer, mais il faut surtout pas tomber dans l'extrême avec beaucoup de privations qui font que les gens, au bout d'un moment, vont lâcher complètement traitement et le suivi de leur maladie, tellement ils seront frustrés par des privations qui sont en plus pas nécessaires. Donc je pense que ça, c'est vraiment important. Par contre, la modération aussi est importante, il ne faut pas tomber dans l'autre sens et tomber dans l'excès, mais de ne pas être sur la privation totale, parce que c'est invivable au quotidien.
Je vous laisse dire un tout dernier mot également pour conclure, Louis Potier, que vous avez envie de dire aux auditeurs?
Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant, pour dépister la maladie, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est pouvoir la prendre en charge le plus tôt possible, et ça rend... C'est ça qui permet de limiter vraiment les complications et de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Donc on a beau être diabétique, le diabète peut rester asymptomatique, en tout cas sans parler, sans complications, toute sa vie. Hein. Il suffit de l'avoir dépisté à temps, de l'avoir traité de façon énergique dès le début et sur le long terme. Donc c'est vraiment important, les gens à risque, donc c'est-à-dire les gens avec des antécédents familiaux, donc des parents, des frères, des sœurs qui ont du diabète de type 2, ou des gens passé un certain âge en surpoids, en obésité, avec un manque d'activité physique, pas hésiter à parler à son médecin traitant pour qu'il fasse une simple prise de sang et pouvoir dépister et prendre en charge. tôt la maladie.
Merci beaucoup, Louis Potier. Vous êtes diabétologue à l'hôpital Bichat à Paris. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Et merci à vous, Stéphane Besançon. Vous êtes en direct du Mali. Vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète. Merci beaucoup de vous être rendu disponible tous les deux ce matin pour les auditeurs d'Africa Radio. À très bientôt. La suite, avant de retrouver dans un instant Ambiance Africa. C'est en musique avec Blanche Bailly et Bonbon sur Africa Radio. Je ne suis pas dans